VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, bonjour, édition du jeudi 8 septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion pour commencer les titres.
Au Gabon, l'opposition a jusqu'à jeudi après-midi pour déposer un recours contre les résultats donnant la victoire au président sortant, Ali Bongo Ondimba.
En Guinée, la date du 18 décembre 2016 a été proposée par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections locales.
Libye, les forces gouvernementales ont acculé les djihadistes du groupe État islamique à un dernier petit quartier de Sirte, assure Ashton Carter, le chef du Pentagone.
Soudan du Sud, l'émissaire spécial américain estime mal avisé pour Riek Machar tout éventuel retour à son poste de vice-président.
Présidentielle américaine, les candidats Clinton et Trump discutent de sécurité nationale lors d'un forum télévisé.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'opposition gabonaise a jusqu'à cet après-midi pour déposer un recours contre les résultats contestés de l'élection présidentielle ayant précipité le pays dans la crise. Jean Ping, déclaré perdant par la commission électorale, n'avait pas annoncé hier en fin de journée s'il avait décidé ou non de saisir le tribunal. Mercredi, à la veille de la date butoir, Ali Bongo a contre-attaqué, martelant que la saisine de la Cour constitutionnelle était l'unique solution envisageable de sortie de crise, balayant ainsi d'un revers de la main toute possibilité d'un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. M. Bongo a répété qu'une telle disposition n'était pas prévue par la loi électorale et relevait exclusivement d'une décision de la Cour.
Les avocats d'un correspondant en langue Haoussa de Radio France Internationale au Cameroun, jugé pour complicité d'actes de terrorisme, ont dénoncé hier l'introduction dans le dossier par le parquet d'un rapport d'expertise provoquant le renvoi du procès au 5 octobre. Nanit Talani fait le point.
Au cours d'une nouvelle audience du procès du journaliste Ahmed Abba, détenu de plus d'un an à Yaoundé, la capitale, le parquet du tribunal militaire a présenté hier deux documents de 500 pages chacun. C'était un rapport à charge rédigé par un expert en cybercriminalité, a rapporté Maître Charles Chungong, l'un des avocats de l'accusé. Nous avons été surpris par le fait que ce rapport ne figure pas dans le dossier de procédure, a-t-il déploré. Pourtant, la loi exige que le rapport soit fait en autant d'exemplaires qu'il y a deux parties, la partie adverse ayant la possibilité de demander une contre-expertise. Les avocats de l'accusé ont dû insister pour que ce document leur soit présenté durant l'audience. En la consultant, nous nous sommes rendus compte que l'acte de commission est un faux qui date du 24 février, alors que l'audience a commencé le 4 janvier, a expliqué Maître Chungong, fustigeant un scandale judiciaire. Présente à l'audience, l'auteur de ce rapport devait être entendu comme unique témoin de l'accusation, mais son audition n'a finalement pas eu lieu, les avocats d'Ahmed Abba ayant contesté la régularité de son acte de désignation.
Au Mali, une scission est récemment intervenue au sein d'un groupe de l'ex-rébellion à dominante Touareg du nord du Mali, le Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. Mais un responsable de l'ex-rébellion en a minimisé l'importance mercredi. Je dément les nombreux départs annoncés au sein de la CEMA au profit du Mouvement pour le salut de l'Azawad. MSA a déclaré à l'AFP Al-Mouag Mohamed, porte-parole de la CEMA, qui fédère les anciens groupes rebelles, dont le MNLA.
La situation reste tendue dans la région de Guerguera, dans le sud du Sahara occidental, où des forces de sécurité du Maroc et du Front Polisario se font face au risque d'un affrontement, a affirmé hier, mercredi, l'ONU. Ces personnes armées des deux camps ont maintenu leur position à environ 120 mètres les unes des autres, malgré les efforts de médiation de la MINURSO, mission de l'ONU au Sahara occidental, a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Les Nations Unies redoutent une reprise des hostilités avec un risque d'implication régionale, a-t-il averti.
En Guinée, la commission électorale indépendante a proposé mercredi la date du 18 décembre 2016 pour la tenue des élections locales, 11 ans après le dernier scrutin de ce type dans le pays. La controverse sur le calendrier électoral entre pouvoir et opposition, en particulier sur la décision de la CENI de renvoyer le scrutin local après la présidentielle fixée au 11 octobre 2015, avait suscité des manifestations meurtrières l'année dernière en Guinée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, la coalition réunie autour du parti du président Macky Sall a remporté 68 des 80 sièges en jeu aux élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, nouvelle institution issue d'une révision constitutionnelle en mars selon les résultats officiels publiés mercredi. Le HCCT comprend 150 membres, dont 70 sont nommés par le président de la République et 80 élus au suffrage indirect.
Le trafic ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sera interrompu pendant au moins une quinzaine de jours après l'affaissement d'un pont sur la ligne de chemin de fer reliant les deux pays, a constaté mercredi l'AFP. Citarail, Société internationale de transport africain par rail qui exploite la ligne, a su étudier des solutions temporaires, rail ou route, afin de ne pas pénaliser les trafics importants pour l'économie des deux pays.
Crise sud-soudanaise, il serait mal avisé pour Riek Machar de retourner à son précédent poste de vice-président, estime l'émissaire spécial américain pour le Soudan du Sud. Pour sa part, la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, affirme avoir aidé à transporter en lieu sûr des partisans de Machar ayant franchi la frontière. Les précisions de Lionel Gahima.
Compte tenu de l'instabilité persistante au Soudan du Sud, Washington croit qu'un retour de Riek Machar au poste de vice-président serait une bonne idée, a fait savoir l'émissaire spécial américain pour le Soudan du Sud. Ce n'est pas pour autant une raison pour le président sud-soudanais Salva Kiir de monopoliser le pouvoir et de museler toute dissidence politique, a souligné Donald Booth mercredi lors d'une audition à la Chambre des représentants. Face à la situation prévalente au Soudan du Sud depuis 2011, plusieurs législateurs américains sont appelés à des sanctions contre les responsables de la violence dans ce pays. La mission de l'ONU en RDC dit de son côté avoir pris en charge, pour des raisons purement humanitaires, plus d'une centaine de partisans de Riek Machar ayant franchi la frontière. Selon le porte-parole onusien Stéphane Dujarric, que cite l'AFP, certains étaient dans un état critique et ont été acheminés vers des centres médicaux congolais pour recevoir des soins. Ces combattants et leurs chefs avaient été chassés de Juba, la capitale sud-soudanaise, à la suite de violents affrontements avec les forces loyales du président Salva Kiir.
Les forces gouvernementales libyennes sont en passe de chasser les combattants de l'État islamique de leur dernier repère dans la ville de Sirte, a déclaré mercredi Ashton Carter. Le secrétaire américain à la Défense a dit que les forces loyales au gouvernement d'Union nationale libyen, appuyées depuis début août par des frappes aériennes américaines, avaient acculé les djihadistes à un dernier petit quartier de la ville. Je prévois qu'elles élimineront rapidement ce qu'il reste de l'opposition, a déclaré M. Carter.
La justice du Zimbabwe a levé mercredi l'interdiction de manifester dans la capitale Harare, une mesure décrétée la semaine dernière face aux manifestations antigouvernementales. Précision de Timothée Donangmaï.
La haute cour du Zimbabwe a jugé que l'interdiction était illégale, a déclaré à la presse l'opposant Tendai Biti, avocat et chef du Parti démocratique du peuple. La cour a rendu un jugement très courageux, a-t-il ajouté. Même réaction de l'Association des avocats pour les droits de l'homme au Zimbabwe, qui représente plusieurs manifestants arrêtés et qui a qualifié la décision judiciaire de victoire pour les militants. Samedi, le président Mugabe avait accusé les juges de négligence pour avoir autorisé des manifestations de l'opposition tout en sachant pertinemment qu'elles pourraient être violentes. La police zimbabwéenne avait interdit du 1er au 16 septembre toute manifestation à Harare, la capitale. Le Zimbabwe est le théâtre depuis plusieurs semaines de manifestations contre le régime de Robert Mugabe, âgé de 92 ans, et la grave crise économique que traverse le pays.
Les États-Unis ont accusé la Russie d'avoir envoyé un de leurs avions de chasse dangereusement près d'un avion espion américain au-dessus de la mer Noire. Une interception qualifiée de manque de professionnalisme par les responsables militaires des États-Unis. Moscou, pour sa part, dit avoir agi conformément aux règles internationales.
Syrie, la Russie a annoncé une rencontre entre son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, et son homologue américain John Kerry, jeudi et vendredi à Genève, pour essayer de trouver un accord sur le conflit en Syrie. Mais les États-Unis n'ont pas confirmé. Sergueï Lavrov et John Kerry ont travaillé hier au cours d'une conversation téléphonique sur les détails de l'accord sur une coopération russo-américaine dans la lutte contre les groupes terroristes en Syrie, l'extension de l'aide humanitaire et le lancement du processus politique, selon le ministère russe des Affaires étrangères.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Écho, Nathalie Barge.
Le gouvernement ivoirien a annoncé l'adoption d'une loi des finances rectificatives, portant le budget de l'année à 6 166 milliards de francs CFA contre 5 813 milliards initialement votés par le Parlement. La Côte d'Ivoire projette d'investir 30 000 milliards de francs CFA dans son économie d'ici 2020. Le Parlement devrait autoriser la mise en œuvre de la loi en octobre. La Banque islamique de développement va mettre à disposition 575 millions de dollars pour des projets de développement dans 5 pays africains. Ce soutien sera accordé au Sénégal pour lutter contre la pauvreté, à la Côte d'Ivoire pour l'accès à l'eau, au Cameroun pour le développement rural, au Niger pour la construction d'un barrage et à la Mauritanie pour un projet de santé. PSA Peugeot Citroën a ouvert une usine d'assemblage en Éthiopie avec le groupe local Mesfin Industrial Engineering. Implantée à Woukra, l'usine va assembler des Peugeot 301 et 208. Sa capacité de production initiale est d'environ 1000 unités par an.
À présent, les sports avec Tatiana Mosso. Tatiana, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Jeux paralympiques, le président du CIO n'assistera pas à la suite des épreuves pour le moment.
En effet, l'Allemand Thomas Bach n'a pas participé à la cérémonie d'ouverture des 15e Jeux paralympiques d'été mercredi soir à Rio. Il n'a pas prévu d'assister non plus aux épreuves pour le moment. C'est ce qu'on a appris mercredi auprès du CIO. Monsieur Bach a assisté mercredi aux obsèques de l'ancien président allemand Walter Skill, décédé à Berlin à l'âge de 97 ans. Et pour cette raison, a informé Philippe Craven, le président du comité paralympique international, il ne pouvait être présent à la cérémonie d'ouverture comme il avait prévu à l'origine. Les Jeux paralympiques se déroulent jusqu'au 18 septembre. Plus de 4000 sportifs handicapés venant de 161 nations se disputeront les 528 médailles d'or mises en jeu.
US Open, la Tchèque Karolína Plíšková en demi-finale.
En effet, elle s'est qualifiée pour la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière en dominant la Croate Anna Kondjun, 92e mondiale, 6-2, 6-2. Plíšková, 12e mondiale, affrontera jeudi pour une place en finale l'Américaine Serena Williams ou la Roumaine Simona Halep, opposée dans le dernier quart de finale.
Une enquête de l'instance anticorruption sur un match du premier tour.
Oui, le match du premier tour de l'US Open fait l'objet d'une enquête de la Tennis Integrity Unit, l'instance chargée de lutter contre la corruption dans le tennis. Des officines de Paris ont alerté la TIU d'un volume anormalement élevé de mises pour une telle rencontre.
Exclu de Rio, la Russie organise sa propre compétition.
La sélection paralympique russe au grand complet a défilé devant quelques milliers de spectateurs avant que le ministre russe des Sports puisse lire un message de soutien de Vladimir Poutine. Les épreuves sportives sont organisées jeudi et vendredi et les médaillés, parmi 263 athlètes dans 18 disciplines, recevront les mêmes récompenses que s'il s'agissait d'une médaille obtenue aux Jeux paralympiques.
Dopage, première réunion jeudi de la nouvelle commission antidopage russe.
La première réunion de la commission contre le dopage créée par Moscou après le gigantesque scandale ayant privé des dizaines d'athlètes russes des JO aura lieu ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé le président du comité olympique russe, Alexandre Joukov.
Un mot sur le golf, Tatiana, avec un revenant, Tiger Woods, le grand champion qui espère faire son retour en compétition en octobre.
Et oui, c'est la nouvelle des Green. L'ancien numéro 1 mondial Tiger Woods, absent du circuit professionnel depuis plus d'un an, espère faire son retour en compétition en octobre. À 40 ans, le golfeur le plus connu de la planète, qui a remporté 14 titres majeurs dans sa carrière, a été opéré du dos en octobre 2015 pour la troisième fois en moins de deux ans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seboudia en votre compagnie. Maintenant, nos dossiers du jour. Nous commençons par le Burkina Faso, où les travailleurs du secteur des médias publics sont en colère. Et ils ont manifesté cette colère hier par un mouvement de grève inédit au Burkina. À l'appel du Syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, des centaines de journalistes ont observé ce mouvement. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
En raison de ce mouvement, notre programme habituel connaît des perturbations. Nous nous en excusons. Le programme normal reprendra demain, jeudi 8 septembre 2016, à 5h du matin. D'avance, merci.
Voici le message servi en boucle aux éditeurs de la radio publique et quand pour la télévision, c'est un message déroulant qui annonçait la perturbation des programmes. Durant 24 heures, les bureaux de la radiodiffusion télévision du Burkina, ceux de Sidoya, le quotidien d'État, se sont vidés de leurs occupants venus à la Bourse du Travail à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture cinématique, dénoncer l'inaction du gouvernement sur leurs revendications minimales.
Pourquoi nous sommes là ce matin, camarades ? Oui, ça ne va pas, camarade.
Le secrétaire général du Sinatic, Séléki Dramé.
Nous tenons à féliciter toutes les travailleuses, tous les travailleurs des médias publics qui ont accepté de se sacrifier pour mener ces actions-là, en vue d'interpeller encore une fois les autorités gouvernementales pour qu'elles résolvent ces problèmes cruciaux, à savoir les conditions de rémunération salariale et indemnitaire qui sont en deçà de ce qui peut permettre à un homme de médias d'être à l'abri du besoin. La reconstruction de carrière, les frais de production et autres avantages dont bénéficiaient les travailleurs des médias publics et qui ont été suspendus. Et enfin, l'arrêt des intimidations et autres pressions sont souvent monnaie courante dans les médias publics.
Ce mouvement de journalistes a connu une participation inédite de plusieurs centaines d'agents des médias publics venus crier leur ras-le-bol.
C'est pour dire non à l'immixtion dans les médias d'État. Non à la non-examination de notre plateforme.
La plateforme elle même a été élaboré en 2010 et nous sommes aujourd'hui en 2016. Donc nous pensons que nos préoccupations n'ont que trop duré. Nous sommes prêts à aller jusqu'où il faut.
Les journalistes, unis comme rarement ils l'ont été, ont brandi à l'unisson des cartons rouges à l'endroit du ministre Rémi Dandjinou en charge de la communication. Un ministre mis en garde à demi-mot à travers la déclaration du président de l'unité d'action syndicale, Bassonnement Bazier, venu en renfort.
Si au contraire le point qui nous est fait, qu'un travailleur était menacé, que sa vie est menacée, ou même sa quiétude psychologique est menacée, nous allons réagir.
Le Sinatic se bat depuis quelques mois pour faire appliquer un décret gouvernemental pris en 2015 sous la transition en faveur de journalistes de médias publics qui travaillent dans des conditions précaires. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République centrafricaine, la multiplication des accidents de moto inquiète à Bangui. Entre 8 et 15 nouveaux cas sont quotidiennement enregistrés dans la capitale centrafricaine. Conséquence, le seul service de traumatologie de l'hôpital communautaire est débordé. La population en appelle à la prise de responsabilité des autorités. Reportage de Freeman Sipila.
Il ne se passe pas un jour sans qu'un cas d'accident de moto ne soit enregistré sur les artères de Bangui. Ces accidents sont dus au non-respect du code de la route, à l'excès de vitesse, aux surcharges et à la consommation des stupéfiants, notamment les comprimés de tramadol. Situation qui inquiète de plus en plus à Bangui.
Vous savez que la vie humaine est très sacrée et on perd la population centrafricaine comme ça, c'est pas bien.
Les chauffeurs font assez de vitesse extrêmement forte à chaque fois. On connaît des cas des accidents sur les grands axes.
Chez nous, les centrafricains, on roule à 100 à l'heure. Vous voyez, c'est pas normal. C'est pour cela que l'accident se trouve souvent devant l'hôpital communautaire.
C'est sur l'avenue des Martyrs que ces accidents sont fréquents. Au début de cette semaine, en l'espace d'une heure, 3 accidents se sont produits non loin de l'hôpital communautaire de Bangui. Touchés, ces passants appellent les autorités à prendre leurs responsabilités.
Pour éviter les accidents, au moins il faudrait même 2 policiers ici pour quand même mettre les gens à l'aise pour traverser quand même la route.
Je vois il y a des policiers, des gendarmes, quel est leur travail? Ce sont eux qui sont les représentants du gouvernement sur les routes. Leur problème, c'est de régulariser pour garantir la protection des gens.
Pour ma part, je pense que seul l'État qui peut réglementer ce secteur à travers les policiers et les gendarmes.
Conscientes de cette situation, les autorités assurent être à pied d'œuvre pour réglementer le secteur mototaxi en pleine expansion dans le pays. À l'hôpital communautaire, sur la même avenue des Martyrs, des sources hospitalières indiquent qu'entre 8 et 15 victimes d'accidents de moto sont régulièrement admises au service des urgences. Docteur Joachim Partern-Tembeti, directeur de cet hôpital, parle d'un problème de santé publique.
C'est un problème de santé publique majeur. Au départ, c'était au moins 15 par jour. Mais avec le travail que nous sommes en train de faire avec mes équipes, on est en train de réfléchir pour descendre maintenant à 10 à 8 par jour. La période la plus cruciale, c'est le matin, quand les gens sont en train d'aller au boulot, ou bien c'est le soir. Ça, j'ai vécu devant moi ce matin quand je venais au boulot. Il y a eu un accident. Le taxi moto a traîné la petite devant moi comme ça sur le goudron. Et heureusement, je me suis arrêté pour prendre la fille en charge pour l'amener au niveau de l'hôpital communautaire.
Au service de traumatologie, indiqué pour la prise en charge des victimes d'accidents et autres traumatismes, le nombre des malades dépasse largement la capacité d'accueil. Pour faire face à ce problème, MSF, Médecins sans frontières, a ouvert un grand centre de prise en charge gratuite des victimes de traumatismes à l'hôpital général de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Le Bénin est bien décidé à reconstruire son patrimoine matériel et immatériel et à donner de la valeur à sa diversité culturelle pour une meilleure valorisation du tourisme. Et cela, selon le président Patrice Talon, passe par le retour au pays de tous ces objets sacrés qui auraient été volés, pillés ou offerts et qui font la fierté et la richesse des musées de l'ancienne puissance coloniale. Alors, de Cotonou, nous avons notre correspondante.
Pour beaucoup, il était temps qu'après la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, quelqu'un prenne la décision de se fier aux exigences de la charte culturelle qui demandait la reconstitution du patrimoine culturel du Bénin.
Décision salutaire, courageuse, parce que ce n'est pas évident. Ce serait toujours une bonne chose que de permettre aux nouvelles générations de pouvoir aller se ressourcer en un endroit sûr où ils peuvent facilement avoir un peu plus d'informations sur ce qui a eu de par le passé sur l'histoire du Bénin.
C'est parce que d'autres pays l'ont réussi qu'aujourd'hui le Bénin estime que lui aussi, il peut aller sur la même voie.
Mais passé la bonne bouffée de joie et de patriotisme, les vraies questions reviennent sur le tapis concernant cette entreprise. Certains pensent que le chef de l'État s'est empressé de prendre une décision sans tenir compte des réalités intrinsèques d'un patrimoine tel que celui qu'on demande le rapatriement. C'est le cas de Franck Ogou, expert dans le domaine. Il est en fonction à l'école du patrimoine africain.
Dans le cadre du rapatriement des biens volés ou pillés, il y a la convention unie droit que les États participent afin de s'entendre sur des cas éventuels de rapatriement de biens. Et sur ce point, il faut préciser que la France n'a pas signé la Convention Unie Droit et donc n'est pas concernée par le rapatriement des biens culturels pillés en Afrique. Il faut également dire que pour que cela puisse faire, il faut voir le contenu des accords bilatéraux entre la France et le Bénin. Voici ces accords-là prévoient éventuellement ces cas de rapatriement.
C'est la même rengaine chez Pascal Ouanou, ancien directeur du plus prestigieux festival de théâtre du Bénin. Il pense pour sa part que le gouvernement ne doit sous aucun prétexte brandir la force pour récupérer des objets qui ont été jalousement gardés par les bons soins de la France.
Et la politique nationale du Bénin en matière culturelle recommande que l'État béninois aille en négociation. C'est une négociation. Et il ne s'agit pas de réclamer quelque chose qu'on en soit disant volé, non?
Mais le Bénin a-t-il les moyens et les stratégies de conservation de ses anciens trésors? Là se trouve toute la question. En attendant, les Béninois caressent le rêve de pouvoir se compter parmi ceux qui verront un jour peut-être les objets du très emblématique roi béhanzin dont la déportation avait orchestré le pillage de son palais, lieu chargé d'histoire mais aussi de trésors royaux. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Washington Forum ce jeudi, le républicain Donald Trump, en retard dans les sondages, tente de séduire les communautés latino et afro-américaines dans les États indécis. On fera aussi le point sur la candidate démocrate Hillary Clinton en tête. L'état-major républicain demande une enquête sur la fondation Clinton. Les opérations de charme de Donald Trump suffiront-elles ? Engluée dans différentes enquêtes, Hillary Clinton peut-elle sortir indemne de ces nouvelles accusations? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Présidentielle américaine 2016, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump ont partagé hier soir le même plateau de télévision, mais séparément, lors d'un programme intitulé « Le forum du commandant en chef » à bord du porte-avions Intrepid à New York. Madame Clinton a déclaré que la stabilité est la plus importante qualité que doit avoir un président. Pour sa part, M. Trump a rétorqué que les électeurs n'ont pas à s'inquiéter de son tempérament ou jugement.
Les deux candidats avaient convenu de ne pas utiliser le forum pour des attaques personnelles, mais c'était de toute évidence difficile pour Mme Clinton et M. Trump de les éviter.
A commander-in-chief is someone who listens, who evaluates what is being told to him or her.
Hillary Clinton a déclaré qu'un président doit être quelqu'un qui sait écouter et évaluer ce qu'on est en train de lui dire. Donc la clé, c'est le tempérament ou le jugement. La candidate démocrate estime que la force doit être le dernier recours et qu'elle a appris que la guerre en Irak était une erreur, reconnaissant qu'elle avait eu tort de l'appuyer quand elle était sénatrice. Les États-Unis, a-t-elle assuré, n'enverront plus jamais des troupes terrestres en Irak.
Madame Clinton a également affirmé qu'elle fera respecter à la lettre l'accord sur le nucléaire iranien conclu avec Téhéran et qui a permis, selon elle, de mettre le couvercle sur ce programme. Concernant la guerre contre le groupe État islamique, Madame Clinton a dit que les États-Unis devront obtenir plus de soutien de la part de leurs alliés arabes.
Pour sa part, Donald Trump a déclaré qu'il sera très, très prudent quand il décidera d'envoyer sur le champ de bataille des Américains, accusant Hillary Clinton d'avoir la gâchette facile.
That same point, what I did learn is that our leadership, Barack Obama, did not follow what our experts and
il a dit avoir été choqué par ce qu'il a entendu dans un briefing secret sur la sécurité nationale, briefing qui est donné aux deux principaux candidats à la présidence, et M. Trump de révéler que Mme Clinton, le président Barack Obama et le secrétaire d'État John Kerry n'avaient pas suivi les recommandations des experts des services de renseignement. Et il a ajouté l'avoir aussi compris en décryptant leur langage corporel.
Par ailleurs, Donald Trump n'a eu aucun problème à rendre hommage au président russe Vladimir Poutine, malgré les tensions actuelles entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Selon lui, il aura une très bonne relation avec Poutine et beaucoup d'autres leaders étrangers. Donald Trump et Hillary Clinton auront leur premier face-à-face lors du débat télévisé du 26 septembre prochain, le premier des trois prévus avant l'élection du 8 novembre.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Merci à Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.